Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Merci de nous rejoindre pour votre santé, votre avenir sur VOA Afrique, The Voice of America depuis Washington DC. À la présentation, Nanit Talani. Se rendre chez le médecin quand tout va apparemment bien n'est pas une démarche évidente pour beaucoup de gens. Pourtant, c'est un atout de faire régulièrement le point sur son état physique. C'est ce qu'on appelle un bilan de santé ou check-up médical. Dans la pratique, de quoi s'agit-il? Pourquoi faire un bilan de santé? Quels en sont les bénéfices?
Le bilan de santé permet d'évaluer l'état de santé de la personne et décider d'éventuelles pathologies ou infections qui sont latentes. Au-delà de cela, de proposer en fait une prise en charge précoce du patient, c'est-à-dire la prévention.
Notre invité Sékou Cheikh Bomba répondra à ces questions et à celles que vous avez laissées sur la page Facebook de VOA Afrique. Sékou Cheikh Bomba est le PDG de CBS Systems en Virginie aux États-Unis avec une filiale en Côte d'Ivoire. Il est aussi doctorant en ingénierie management et il a inventé Apollo, une application qui favorise la promotion de la santé en Afrique. Après cette discussion, vous suivrez dans la deuxième section de notre émission Carnet de santé avec Linor Moudou.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Nous vous proposons maintenant de suivre notre discussion avec Sékou Cheikh Bomba. Bonjour Cheikh.
Bonjour.
Merci d'être notre invité pour cette émission qui est consacrée au check-up médical ou au bilan de santé. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un bilan médical?
Un bilan de santé est un acte préventif désignant l'ensemble des examens médicaux subis par un individu.
À quoi sert-il?
Le bilan de santé permet d'évaluer l'état de santé de la personne, de décider d'éventuelles pathologies ou infections qui sont latentes. Il y a aussi la possibilité, au-delà de cela, de proposer en fait une prise en charge précoce du patient, c'est-à-dire la prévention.
Donc les bénéfices d'un bilan de santé, c'est au niveau de la prévention d'une maladie?
Je dirais oui, ça c'est la plus importante situation qu'on peut tirer du bilan de santé, c'est la prévention, mais il y a la constatation aussi. Parce que quelqu'un peut être bien portant et toujours souriant, mais il traîne une maladie. Il n'a pas encore été complètement déclenché, mais il a déjà la maladie. Et à ce niveau-là, avec un bilan de santé, on peut avoir des informations. Le corps humain change. Chaque seconde que nous prenons, notre corps s'adapte à notre environnement, à tout ce qui nous entoure, notre manière de nous nourrir, l'alimentation et tout impacte sur le corps humain.
À cause de tout ça, le corps, il a besoin d'un check-up médical ou d'un bilan de santé?
On pourra considérer ça comme une machine. S'il n'y a pas l'entretien de cette machine, on ne pourra pas en fait savoir qu'est-ce qui se passe. Le bilan de santé est un diagnostic en réalité du corps humain. Il y a assez d'avantages. Le corps subit des évolutions, transformations. Il y a un dispositif d'examen biologique suivi d'un contrôle de poids, de tension, de vue, audition, de réflexe. Il pourrait se rapprocher de l'idée d'une révision. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'importance dans ce bilan de santé.
Quels sont les examens qui sont recommandés ou pratiqués pendant le bilan de santé?
Il y a l'examen biologique, normalement une prise de sang, l'analyse de l'urine. Il y a des tests visuels et auditifs, l'électrocardiogramme que les Américains appellent la plupart du temps EKG, un examen bucco-dentaire.
Pendant un bilan de santé, y a-t-il des examens spécifiques suivant certaines catégories de personnes?
Il y a la possibilité pour les patients qui sont déjà en âge, plus de 65 ans, 70 ans, la possibilité d'identification de l'Alzheimer et différentes maladies. Pour des fumeurs, il y a la radiographie pulmonaire. Pour les femmes, il y a la gynécologie, les plus d'examens. En fait.
Nous avons un auditeur, Gakdos Kebabe, depuis N'Djamena au Tchad. Il demande quel est l'âge recommandé pour commencer à faire son bilan de santé.
Je dirais un jour.
Donc, dès qu'on est quoi?
Dès qu'on est déjà fait, c'est déjà fait, mais après une semaine, tout individu peut chercher en fait à avoir un bilan de santé. Et c'est très, très important. Il n'y a pas d'âge, c'est vraiment recommandé. Et je dirais une fréquence annuelle serait la meilleure approche. Et certaines personnes que je connais font à une fréquence biannuelle, c'est-à-dire deux fois par an.
Donc, cela signifie que le bilan de santé s'adresse aux enfants, aux jeunes, aux adultes, aux vieux, aux femmes, aux hommes, aux citadins, aux villageois, aux professionnels, à tout le monde?
Tout le monde, toute la population entière.
Où est-ce qu'on peut faire ce bilan de santé? Est-ce qu'on peut se rendre chez l'infirmier chez qui on va toutefois quand on se sent mal? Ou il faut aller à l'hôpital dans un grand centre?
Normalement, ce qui est recommandé, c'est de se retrouver dans un centre hospitalier universitaire, pour employer le lexique francophone. Dans un pays francophone, je pense que nous avons des centres hospitaliers universitaires. Nous avons des centres hospitaliers régionaux. N'importe en fait quel centre, je dirais, de santé communautaire ou urbain, clinique privée, qui a en son sein un personnel qui puisse pratiquer la médecine générale, c'est possible. Dans tout endroit où se trouve un médecin général ou un infirmier, il est possible de faire un bilan de santé annuel.
Ça doit coûter cher. Hein?
Je l'affirme, ce n'est pas gratuit. En Afrique, surtout que dans certains pays, même avec l'assurance, il faut encore payer pour le bilan annuel de santé. Mais nous avons pensé à cette solution. Voilà pourquoi, au sein des SCB Systems, nous avons créé l'application Apollo.
L'application Apollo qui permet de faire quoi?
L'application Apollo en fait, permet de vulgariser le bilan de santé. Avec Apollo, par exemple, nous permettrons de réduire tout le coût du bilan de santé en employant une économie d'échelle. C'est-à-dire, nous pouvons aller vers une clinique ou un médecin et lui dire « Nous allons vous apporter like, 1 million de patients par an sur qui vous devez performer le bilan de santé annuel. » Like, « Provide the service. »
Pour fournir les services.
Yeah, merci. Yeah, fournir le service. Donc, avec cette approche, si le bilan de santé coûtait normalement 10 000 francs, parce que le prix varie en 10 000 et 100 000 dans certains pays francophones. Donc, si normalement il devait charger 10 000 francs pour 20 patients par an, parce que c'est vraiment pas une pratique répandue en Afrique, on lui dira nous apporterons 1 million de personnes, donc il serait préférable que tu fasses ça juste 1 000 francs. Ce gars peut être OK avec parce qu'il verra cette entrée de capital.
Vous faites tout ça pour vulgariser le bilan de santé et faire la promotion de la santé en Afrique?
Nous avons une approche pour vulgariser le bilan de santé en Afrique. C'est ce que nous travaillons.
Vous êtes le directeur de CBS Service. Vous avez créé une application pour faire la promotion de la santé en Afrique.
Yes.
C'est un sujet tellement important que nous allons y revenir pour une autre édition de Votre Santé, Votre Avenir. Pour revenir au bilan de santé, est-ce que cette notion est assez familière en Afrique? Est-ce que les Africains font facilement le bilan de santé, même ceux qui ont de l'argent?
Je dirais non, parce qu'en 2018, nous avons fait une recherche qui a prouvé que moins de 2% de la population en Afrique de l'Ouest pratiquait le bilan de santé. C'était vraiment pas courant. Et au ressort, en fait, de notre recherche, nous avons constaté que la majorité des personnes, même des médecins et tout, ils ont pris pour l'habitude de se rendre à l'hôpital lorsque c'est déjà grave. On ne pratique pas la prévention, en fait, en Afrique. Et ça, c'est, je pense que la base de tous nos maux.
Alors que quand c'est déjà grave, parfois ça peut conduire à trop tard.
Yes.
En quelle année vous avez fait cette étude?
En 2018.
Et seulement en Afrique de l'Ouest?
Yeah, en Afrique de l'Ouest.
Est-ce que vous avez une idée du nombre ou bien du taux des personnes qui font régulièrement un bilan de santé dans toute l'Afrique?
Nous n'avons pas spread out. Pour Dieu, n'est-ce pas? Je trouvais le mot en français. Nous n'avons pas en fait fait...
Conduit
l'étude sur l'entièreté de l'Afrique, vu que nous avions comme communauté de base l'Afrique de l'Ouest et nous avions cherché à pénétrer avec notre nouveau service. Donc, le taux annuel en Afrique, je dirais toujours que c'est vraiment bas. Parce que pour l'Africain lambda, le bilan de santé n'est pas dans sa culture. Donc, je peux prédire que ça sera moins de 10%.
Est-ce que même les Africains qui ont de l'argent ont l'habitude de faire des bilans de santé?
C'est pire, en fait, parce que les Africains qui ont le moyen de faire des bilans de santé n'en font pas. Ils se disent qu'ils sont toujours bien portants et lorsqu'ils auront une maladie, ils pourront immédiatement se soigner. Ils se disent, oh, nous n'avons pas de temps, nous sommes vraiment pris. Nous ne pourrons pas perdre une heure ou une journée de notre temps pour aller juste check notre statut au niveau de notre santé. Ça, c'est vraiment un problème. Peu de personnes en fait le font. Même certaines personnes qui ont vécu à l'étranger, la diaspora qui se retrouve en Afrique, ne le pratiquent plus. Juste parce qu'ils ne sont pas orientés ou juste qu'ils perdent immédiatement cette habitude-là se retrouvant sur le continent africain.
Est-ce que l'absence d'un bilan de santé contribuerait aussi au taux élevé de mortalité dans les pays africains?
Là, je le confirme. Je suis à 1000%, je dirais, sûr que le plus gros problème de l'Afrique, c'est la prévention. Le bilan de santé est à la base de la prévention. Parce que, je peux vous dire, l'Afrique subsaharienne a que 11% de la population mondiale, mais cette Afrique subsaharienne a 70% des maladies transmissibles et non transmissibles. Ça, c'est vraiment incroyable. La malaria, tout ce genre de maladies, nous pouvons les identifier avec uniquement un bilan de santé. Il faut les identifier à la base.
identifier ces maladies pour mieux les combattre?
Lorsque ces maladies seront identifiées, on pourra mieux les prévenir, mieux les soigner et réduire le taux d'infection. Notre approche, nous appliquons l'intelligence artificielle pour dégager certaines zones qui seront à risque, que nous pouvons planifier à l'avance des campagnes de vaccination. Lorsque vous ne savez pas, aucune campagne de vaccination ne peut vraiment prospérer. Dites-vous que si dans un village de 1000 personnes, aucune personne n'a déjà été vaccinée, ou n'a déjà fait un bilan de santé, nous ne pouvons pas savoir qui souffre de quoi, qui a quoi. Et ça, c'est un très, très grand problème, parce qu'on n'arrivera jamais à résoudre un problème sans savoir la cause, la racine, en fait. Et le bilan de santé permet de décortiquer cette racine-là.
Merci beaucoup. Nous avons un autre auditeur, Marius Gris, mais il n'a pas dit d'où il écrit. Il se demande si l'ignorance ne contribue pas aussi à l'absence du bilan de santé dans les pays africains.
Je dirais que l'ignorance serait un gros mot, mais je dirais que le manque d'informations et une politique sociale qui privilégie le bilan de santé serait en fait à la base de ce manque-là. Parce que certaines personnes le savent, mais ne le font pas. Certaines personnes ne le savent pas et se disent que c'est déjà coûteux parce que l'Africain lambda cherche à avoir 2 dollars par jour, voit qu'il doit aller dépenser peut-être 10 dollars ou 20 dollars. Donc, c'est dire, mais si je suis bien important, pourquoi j'irai dépenser de l'argent inutile? Certains considèrent que c'est inutile juste parce que leur niveau social ne leur permet pas d'apprécier la valeur de ce système. Donc, on dira le manque d'information.
Tout en tenant compte de la pauvreté financière des populations africaines, comment est-ce qu'on peut les aider à être sensibilisés sur ce problème?
C'est une très, très belle question. Il faut une politique gouvernementale qui facilitera cela, qui est une prise en charge. Il faut aussi une réelle implication des organisations internationales. Et tout cela part de la base des données. Il faut arriver à les identifier. Tous ces Africains dans les zones les plus reculées, tous ces Africains qui sont en ville, il faut arriver à les identifier. L'identification est le plus gros problème africain. Lorsque vous aurez identifié toute cette population, vous pourrez personnellement contacter chaque personne, avoir des rendez-vous pour que cette dernière puisse faire le bilan de santé. Il faut une politique gouvernementale. La politique gouvernementale doit être au centre de tout. Il faut une collaboration du gouvernement, de la société privée et des institutions internationales qui faciliteront toute innovation dans le but de vulgariser le bilan de santé et la vaccination accurate, la vaccination précise. Je peux vous rassurer qu'avec un bilan de santé, toute campagne de vaccination pourra atteindre une précision jamais vue auparavant.
Est-ce que les politiques sanitaires, les infrastructures sanitaires, les hôpitaux, le nombre des médecins dans les villes ou dans les villages en Afrique sont favorables à une prise de conscience des populations africaines quant au bilan de santé qu'elles doivent faire de façon régulière?
Je dirais non. Vu que les infrastructures en place peuvent faciliter le bilan de santé, mais l'utilisation de ces infrastructures déjà qui sont à la limite archaïque ne permettent pas à l'individu lambda d'avoir accès et de recevoir un bilan de santé. Vu qu'il y a plusieurs problèmes, il y a le problème culturel, il y a le problème financier et il y a le manque d'informations. Et lorsque le plateau technique n'est pas assez percutant, assez performant, parce que disons que pour un bilan de santé, il faut mobiliser un infirmier, un docteur qui va le performer, qui prendra en moyenne 2 heures et plus. Combien de personnes seront à mesure de recevoir cela, sachant que nous sommes underserved, nous avons moins de médecins disponibles pour la population. Dans les pays développés, nous avons pratiquement 4 médecins pour 1000 habitants. En Afrique, il se trouve que nous avons moins de 1,15 médecins pour 1000 habitants. Donc, vous voyez que nous n'avons que 360 jours. Lorsque nous partons dans un pays développé et nous disons, OK, avec 4 médecins pour 1000 habitants, nous retrouvons à 250 habitants par médecin. Donc, en une année civile de 360, le médecin peut être à mesure de consulter toute personne.
On sait que la plus belle femme au monde ne peut que donner ce qu'elle a. Donc, les populations africaines qui n'ont pas les moyens de se faire un bilan de santé, qu'est-ce qu'elles peuvent quand même faire pour prévenir certaines maladies?
La base serait d'être active. Cette population, je pense qu'elle est déjà assez active. Donc, d'être active, prendre soin de son hygiène, de vérifier la provenance de différents aliments et d'avoir une hygiène publique un peu plus améliorée. Nous avons constaté qu'en Afrique, il y a un peu de laisser aller avec la propreté. Quelqu'un qui vit dans un quartier, il voit qu'il y a une eau stagnante, il ne sera pas en mesure de chercher à résoudre le problème de cette eau stagnante. Ils seront OK à constater cela chaque jour, à apporter des moustiques, à apporter des maladies.
Pour terminer notre interview, est-ce que vous avez un conseil particulier à donner aux populations africaines ou aux autorités africaines en rapport avec le bilan de santé?
Le bilan de santé est très, 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 très important et je conseillerais à tout Africain de s'y habituer, d'imprégner cette pratique-là dans son quotidien. Pour un départ, il faut déjà chercher à pratiquer cela une fois par an, même, je dirais, une fois chaque deux années pour être OK pour un pays africain, mais l'esprit du bilan de santé annuel. Il faut s'y imprégner et chercher les nouvelles technologies qui seront en place pour pouvoir faciliter cette activité.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Cheick.
C'est avec un grand plaisir.
C'était notre discussion avec Sékou Cheick Bomba, PDG de CBS System et doctorant en ingénierie management. Nous avons discuté sur l'importance du bilan de santé. À présent, carnet de santé avec Linor Moudou.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Cette semaine, dans Carnet de santé, coup de projecteur sur la lèpre, maladie tropicale négligée marquée par la stigmatisation et l'exclusion. Nous verrons certains défis auxquels sont confrontés les patients souffrant de lèpre en Éthiopie. Et un entrepreneur au Nigeria propose des thérapies aquatiques pour aider les gens à se détendre et améliorer leur bien-être. Ensuite, savez-vous comment porter correctement un masque? C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bienvenue, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. C'est une maladie chronique infectieuse qui provoque des lésions cutanées graves, défigurantes et des lésions nerveuses. La maladie de Hansen, aussi appelée lèpre, existe depuis l'Antiquité et a touché tous les continents. La lèpre est causée par la bactérie Mycobacterium leprae et affecte les nerfs, la peau, les yeux et la muqueuse du nez. Il existe des traitements efficaces contre la maladie. Cependant, si elles ne sont pas traitées, les lésions nerveuses peuvent entraîner une paralysie des mains et des pieds, ainsi que la cécité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 208 000 personnes dans le monde sont infectées par la lèpre, la plupart en Afrique et en Asie. Partons tout de suite en Éthiopie, où de nombreuses personnes atteintes de la lèpre sont confrontées à la stigmatisation et à des défis tels que le manque d'accès à des soins médicaux appropriés. Le journaliste Mukhtar Jemal s'est entretenu avec le docteur Temam Ahmed, PDG de l'hôpital Sachemene Comprehensive and Specialized Hospital.
J'ai contracté la lèpre de notre femme de ménage. Elle a aidé à nous élever, mes 13 frères et sœurs et moi. Mais j'ai été le seul à avoir été infecté par la maladie. Je suis venu au centre de traitement de lèpre de Kouyera en 1964. À cette époque, ma main allait mieux parce que j'étais jeune et ignorant. Je ne prenais pas les médicaments que me donnait mon médecin. Petit à petit, j'ai commencé à remarquer des lésions nerveuses sur mon corps. J'ai commencé à perdre les sensations dans mes mains, ce qui a ensuite conduit à une déformation. La perte de sensations est très difficile, c'est comme mourir. Une personne morte peut-elle ressentir quelque chose si une partie de son corps est amputée? C'est cet impact qu'a la perte de sensations sur une personne, c'est comme mourir. Il y a un réel manque de financement en ce qui concerne le traitement de la lèpre. Je ne pense pas que le monde comprenne pleinement cette maladie. Avant, nous avions l'habitude de recevoir un seul comprimé par semaine, alors que nous étions censés recevoir les médicaments tous les jours. La dose n'était pas suffisante pour lutter contre la maladie. Cela a conduit à une augmentation de taux d'infection et nous avons donc perdu à la fois les médicaments et nos chances de guérison. Aujourd'hui, nous prenons un comprimé par jour.
Dans un premier temps, nous établissons le diagnostic lorsque le patient présente une manifestation cutanée et provient de la zone endémique. Une fois que la pathologie est décelée, le patient doit être traité, sinon la maladie provoquera une déformation des doigts. La maladie peut également affecter le système nerveux et provoquer un engourdissement des membres et une paralysie. La lèpre affecte également les testicules, ce qui peut entraîner une infertilité.
Les gens pensent que la lèpre peut être transmise de la mère à l'enfant ou transmise d'une personne à une autre si elles s'assoient ensemble pour prendre un repas. Et une fois que vous êtes atteint de la lèpre, vous vous retrouvez isolé de la société. C'est un fardeau pour certaines familles d'avoir un proche atteint de lèpre. Certaines personnes ont même été tuées par un membre de leur famille pour avoir contracté la maladie.
La société voit la lèpre comme étant une maladie qui se transmet d'une personne à l'autre. Mais ce n'est pas le cas. La lèpre ne se transmet pas d'une personne à l'autre. Les gens pensent également à tort que la lèpre peut être transmise génétiquement, ce qui conduit à une stigmatisation des personnes atteintes de la lèpre.
Je ne suis jamais retourné dans ma ville natale. Quand j'ai quitté ma famille pour venir ici, j'avais l'air d'être en bonne santé. Que diront-ils quand ils me verront dans cet état? À cause de cela, j'ai choisi de ne pas leur rendre visite du tout.
Pour en savoir davantage sur la lèpre, je me suis entretenue avec Bill Gallo, directeur du Partenariat mondial pour l'éradication de la lèpre.
À l'heure actuelle, environ 200 000 nouveaux cas de lèpre sont signalés chaque année et environ 80% de ces cas se trouvent au Brésil, en Inde et en Indonésie. Mais ce sont plus de 150 pays au total qui sont concernés par la lèpre. La plupart de ces pays sont en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. Une chose importante à garder à l'esprit est que la lèpre est liée à la pauvreté. Il faut retenir que la lèpre affecte le plus souvent ceux qui vivent dans la pauvreté et ce sont des personnes qui se trouvent dans des conditions où elles n'ont pas accès à l'eau potable, à une bonne nutrition ou à des logements propres. Ce sont donc les populations les plus vulnérables. La lèpre est guérissable et évitable. C'est ce dont nous devons nous souvenir. C'est une infection bactérienne et depuis les années 1980, elle est traitée avec un régime antibiotique très efficace qui est fourni gratuitement par Novartis Pharmaceutique. Il est donc totalement guérissable s'il est détecté tôt. Cela n'entraîne aucune invalidité à long terme. L'une des avancées récentes les plus intéressantes, outre le traitement de la lèpre, concerne la prévention. Maintenant, pour la première fois, nous pouvons effectivement prévenir les cas de lèpre grâce à une dose unique d'un antibiotique. Nous appelons cela la prophylaxie post-exposition au poivre. C'est une opportunité de changer la donne dans la lutte contre la lèpre dans l'État du Maryland. Et c'est peut-être ce qui nous amène à cette prochaine étape d'innovation. Nous sommes donc très heureux que le Partenariat mondial pour la lèpre travaille vraiment avec les pays et autres partenaires pour intensifier ses activités vers la prophylaxie post-opératoire. La stigmatisation et la discrimination restent de grands défis qui constituent des obstacles à un traitement et à des soins adéquats. La lèpre est guérissable et le traitement est gratuit, mais il reste encore 5 millions de personnes vivant avec un handicap et une stigmatisation liée à la lèpre, même après avoir été guéri. Donc, ce que nous devons faire maintenant, c'est fournir davantage d'interventions sociales en plus des interventions médicales afin que nous puissions atteindre zéro lèpre. Vous savez, un bon exemple est que maintenant, lorsque les personnes touchées quittent les centres de traitement de la lèpre, elles sont souvent invitées à rejoindre des groupes de soins personnels similaires aux groupes de soutien liés à la maladie comme les groupes de soutien contre le cancer. Et ces groupes apportent un soutien émotionnel et social et partagent des outils pour s'adapter à la vie. vie quotidienne. Certains de ces groupes d'auto-assistance ont évolué pour devenir davantage de groupes d'entraide, offrir des opportunités économiques, l'avancement et l'indépendance des personnes atteintes de la lèpre et de leurs familles.
Tayo Orekoya, coach de bien-être, a mis en place le premier centre de thérapie aquatique du Nigeria afin d'améliorer le bien-être des habitants de la ville très animée de Lagos.
À Lagos, au Nigeria, l'entrepreneur du bien-être Tayo Orekoya prépare un client pour une séance de thérapie. L'eau de la piscine qu'il utilise est mélangée avec du sel d'Epsom qui contient du magnésium, du sulfate et de l'oxygène et aurait des propriétés de guérison et de soulagement de la douleur. Orekoya dit qu'il a été séduit par l'idée après une visite à Las Vegas où il dit avoir ressenti une tranquillité absolue après une séance de thérapie similaire.
When I went on the salt,
quand je suis allé à la piscine, c'était magique parce que personne ne devrait flotter sans savoir nager. Alors une fois que je me suis couché sur le sel, j'ai eu l'impression d'être dans l'espace. Je n'ai plus ressenti mon poids, je suis devenu léger. Là, je me suis dit, Tayo, tu dois apporter ça au Nigeria.
L'investissement dans cette entreprise a coûté plus de 10 millions de naira, soit 26 316 dollars USD. Au bout d'un an après sa création en 2018, l'entreprise comptait plus de 360 clients réguliers. Les clients reviennent encore après l'assouplissement des restrictions relatives au coronavirus. Marine Tekini dirige une entreprise de vente de produits capillaires à Lagos. Elle est à sa troisième séance de thérapie flottante.
I'm feeling very light. Je me sens très légère et très détendue pendant la séance, comme si je flottais dans l'espace.
Orekoya dit que cette thérapie aide les gens à acquérir un sentiment de solitude et de clarté.
La plupart des gens viennent ici dans le but de méditer, mis à part le bien-être et la guérison que vous obtenez grâce au sel. Cette immobilité pendant 45 minutes, loin de la technologie, vous donne l'occasion de méditer et faire ressortir de grandes idées.
Chaque séance coûte environ 15 000 naira, soit 38 dollars USD, avec une promotion de plus de 5 séances pour une expérience thérapeutique complète.
Le port du masque est de rigueur dans les lieux publics afin de réduire le nombre de cas de coronavirus. Cependant, certaines personnes ont encore du ressentiment ou sont sceptiques quant au port d'un cache-nez pour diverses raisons. Nous avons recueilli votre point de vue sur la question à Lagos, au Nigeria.
Je ne porte pas le masque facial parce que j'en ai envie ou parce que je crois qu'il me protège contre toute infection. Je le porte à cause de la pression qu'ils exercent sur nous au Nigeria. Vous savez, si vous ne portez pas de masque facial au Nigeria et qu'ils vous voient en plein air, ils vous arrêteront et je ne veux pas aller en prison.
Oui, je porte souvent ce masque car il m'aide à prévenir toutes les autres maladies aéroportées. Et pourquoi je le porte? C'est parce que je ne veux pas être infecté. Et je le porte à chaque fois. Si je quitte la maison, je le porte. Même dans le bus, lorsque nous avons beaucoup de gens assis, je dois me couvrir le nez et la bouche pour éviter tout contact.
Je porte mon masque lorsque je dois sortir, mais la plupart du temps, je suis à la maison. Donc, si je suis à la maison, je n'ai pas besoin de porter un masque. Chez moi, c'est juste ma famille et moi. Nous ne vivons pas dans un environnement surpeuplé. Il n'est donc pas nécessaire de nous protéger en utilisant le masque facial. Mais quand je dois aller au travail, ce qui n'est pas tous les jours de la semaine, j'utilise mon masque facial pour ne pas être exposé à la maladie ou à l'infection. C'est de cette façon que je me protège quand je suis dehors.
J'aime porter le masque pour différentes raisons, car à Lagos, il y a parfois des animaux morts au bord de la route et il faut se couvrir le nez. Donc avec le masque facial, vous êtes déjà couvert. À part cela, quand vous êtes dans le bus et les gens parlent, même après le Covid, je continuerai à utiliser mon masque facial.
la fin de Votre Santé, Votre Avenir. Nous avons parlé de l'importance du bilan de santé avec Sekou Cheikh Bomba, PDG de CBS Systems en Virginie aux États-Unis, avec une filiale en Côte d'Ivoire. Il est aussi doctorant en ingénierie management et inventeur d'Apollo, une application qui favorise la promotion de la santé en Afrique. Ensuite, Linor Moudou vous a présenté Carnet de santé. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Thiro et de Carl Sterling, qui était à la console. Nanit Talani à la présentation. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.